Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, ils tiennent une place de plus en plus importante dans les rayons des supermarchés, alliant alimentation et santé. Éclairage s'intéresse aujourd'hui aux alicaments. Alors ce terme, qui n'est autre qu'une contraction d'aliments et de médicaments, fait bondir les pharmaciens. On parle aussi de nutraceutiques au Canada. L'Académie de pharmacie souhaiterait plutôt parler d'aliments porteurs d'allégations santé. Alors, ces nouveaux produits rencontrent un succès vif. Certains rétabliraient le transit intestinal, d'autres lutteraient contre l'excès de mauvais cholestérol ou favoriseraient la croissance osseuse. Vous les connaissez tous, il s'agit des boissons lactées ou KCI qui participent à renforcer vos défenses naturelles ou qui nourrissent votre peau de l'intérieur. Ce sont les yaourts enrichis au bifidus actif et autres produits laitiers vous promettant de baisser votre taux de mauvais cholestérol car enrichis aux stéréols végétaux. Mais ces effets sont-ils réellement prouvés? En octobre 2007, par exemple, le groupe Mars, qui fabrique les célèbres barres chocolatées, va lancer son premier alicament, Cocavia, censé améliorer la circulation sanguine. Le groupe s'apprête à le commercialiser, cette barre, dans le réseau des pharmacies françaises, une barre donc chocolatée. Et puis en 2008, un autre groupe, Numico, un groupe néerlandais, leader en Europe de la nutrition pour les bébés à la base, Numico donc se prépare à sortir un alicament destiné lui à combattre la maladie d'Alzheimer. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'une directive européenne vient d'entrer en vigueur, le 1er juillet 2007, qui concerne l'allégation nutritionnelle et de santé portant sur les denrées alimentaires et qui a pour but, justement, de vérifier tous ces slogans publicitaires qui indiquent que tel ou tel aliment provoque un bien-être ou va même vous guérir de certaines maladies. Alors, plusieurs années ont été nécessaires pour que ce texte soit validé par les pays de l'Union européenne. C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui avec nos deux invités, le professeur Dominique Thur. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Et puis également le professeur Pierre Bourliou.
Bonjour.
Alors, Dominique Turc, vous êtes professeur de pédiatrie à la faculté de médecine de Lille. Et puis également président du comité d'experts de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, l'AFSA. Vous me précisiez que justement, à l'occasion de cette émission, vous parliez à titre personnel.
Tout à fait.
Et puis Pierre Bourliou, vous êtes professeur de microbiologie, président du conseil scientifique de l'Institut Danone. Donc nous parlerons peut-être de tout ce qui est produits laitiers avec vous et membre de l'Académie nationale de pharmacie.
Oui. Je peux vous donner une précision, c'est que j'appartiens à l'Institut Danone, je ne suis pas quelqu'un de chez Danone. L'Institut Danone est une institution qui est totalement indépendante du groupe, qui a une fonctionnalité complètement indépendante et qui travaille sur des problèmes de nutrition et de santé, mais qui n'est absolument pas lié au groupe Danone. C'est vraiment une structure indépendante.
Alors l'Académie nationale de pharmacie s'est penchée sur ce thème, allégations, alimentation, santé. C'est vrai que ce sont des produits que l'on voit surgir dans les supermarchés qui séduisent véritablement, puisque nous sommes dans un souci justement de diététique où parallèlement à la malbouffe, on va essayer justement d'apporter un bien-être. A priori, avant de commencer, avant d'entrer dans le vif du détail et de parler peut-être plus spécifiquement de cette législation qui est entrée en vigueur, qu'est-ce que vous pensez de ces médicaments qui ont surgi il y a, je ne sais pas, une dizaine d'années? Professeur Bourliou.
Je voudrais d'abord dire que, en ce qui concerne la séance thématique qui a eu lieu à l'Académie de pharmacie, elle a été mise en place parce que l'industrie pharmaceutique, pour laquelle dans l'Académie il y a des représentants de l'industrie pharmaceutique, l'industrie pharmaceutique s'est inquiétée depuis un certain nombre d'années de l'existence d'une hétérogénéité des produits qui étaient mis sur le marché avec des allégations qui quelquefois étaient totalement fantaisistes. Il y avait une espèce d'agressivité de l'industrie agroalimentaire, enfin d'une certaine industrie agroalimentaire vis-à-vis du domaine du médicament, en essayant de faire passer un certain nombre de produits pour avoir comme ayant des propriétés thérapeutiques. En plus de ça, il se trouve qu'il y avait au niveau européen une grande hétérogénéité en ce qui concernait la réglementation de ces produits. Et donc l'Académie de pharmacie s'en est inquiétée et a demandé à ce qu'une séance thématique soit établie sur ce thème. Donc voilà pour l'origine un petit peu de la réflexion qui s'est faite au niveau de l'Académie de pharmacie. Alors pour répondre à votre première question, je crois que il est tout à fait normal qu'on s'inquiète pour le consommateur. Et je crois que le règlement qui est sorti, donc qui sort et qui devient effectif à partir du 1er juillet, a essentiellement pour but d'essayer d'harmoniser tout ce qui touche les allégations santé au niveau européen, de manière à ce que le consommateur soit parfaitement bien instruit de tout ce qui concerne les allégations santé qui sont données. Autrement dit, ce règlement, il a pour objectif de faire en sorte que toute allégation santé donnée à un produit alimentaire puisse effectivement être vérifiée et que le consommateur ne soit pas mal informé, non seulement mal informé, mais induit en erreur par une allégation santé.
Alors justement, professeur Dominique Turc, est-ce que ce n'était pas déjà le rôle initial de l'AFSA que de vérifier si les slogans, ce qui était écrit sur les boîtes de je ne sais quoi, justement si les slogans étaient valables ?
Alors, c'est pas le rôle de l'AFSA. L'organisme qui vérifie la qualité et la recevabilité des informations publicitaires, qu'on appelle de ce terme un peu technique allégation, c'est la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation, de la Répression des Fraudes, qui est une émanation du ministère de l'Économie et des Finances. Et l'AFSA est sollicitée, le cas échéant, par la DGCCRF lorsque celle-ci s'interroge sur la recevabilité, la qualité scientifique, la solidité de la dite allégation.
Alors justement, est-ce qu'il y a déjà des produits qui ont été retirés parce que étaient totalement faussés ? En tout cas, ce qui était indiqué ne correspondait pas du tout aux résultats.
Alors, vous avez employé le mot de retirer, c'est un mot important parce que ça suggère qu'effectivement la situation actuelle, c'est que il n'y a pas d'évaluation a priori avant la commercialisation d'un produit des allégations. Et donc ces allégations peuvent éventuellement être repérées par la DGCCRF après la commercialisation du produit. Et si la DGCCRF estime d'emblée ou bien après avis de l'AFSA que elles sont mensongères, qu'elles trompent le consommateur, c'est l'expression qui est classiquement employée, à ce moment-là, ça peut amener effectivement le retrait du produit. C'est une situation assez rare, mais ça peut arriver.
Alors justement, avec cette législation qui est entrée en vigueur, est-ce que ça va se faire de manière... est-ce que ça va se faire de plus en plus souvent ? Pour le moment, là, vous dites que c'est assez rare, mais est-ce que justement on va être amené à avoir, par exemple, ces petits produits lactés qui agissent pour renforcer nos défenses naturelles, par exemple ? Est-ce que ce sont des produits qui vont être amenés à changer d'allégation ? Ou alors, est-ce que ça va être des produits qui vont être amenés carrément à être modifiés pour pouvoir...
Alors, ce qui va se passer, c'est que chacun des pays de l'Union européenne, les 27 États membres, va envoyer à la Commission européenne la liste des allégations qui sont actuellement utilisées dans le pays en question. Allégations soit nutritionnelles, fonctionnelles, c'est-à-dire la description présence de calcium ou présence de fer, etc. Ou bien des allégations un peu plus fortes avec des implications pour notre santé. Et puis ensuite, la Commission européenne va transmettre ce relevé de centaines, voire de milliers d'allégations venant des 27 pays européens à l'Autorité européenne de sécurité alimentaire qui va faire le tri et qui va juger celles qui sont recevables et celles qui ne le sont pas. Alors vous faisiez allusion à la boisson lactée qui stimule nos défenses naturelles. En l'occurrence, cette allégation a été validée après sollicitation de la DGCCRF par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. Donc c'est un exemple où une autorité d'expertise, en l'occurrence l'AFSA, a jugé recevable la dite allégation, au vu des données scientifiques qui ont été données par l'industriel en question.
Alors, ces industriels maintenant que cette législation est entrée en vigueur, pour les nouveaux produits à venir, ils vont devoir prouver, passer par un laboratoire indépendant. Comment ça va se passer, professeur?
Non, je crois qu'il va falloir qu'ils apportent les preuves scientifiques lorsqu'ils déposeront leur dossier, c'est-à-dire qu'ils n'auront pas le droit de donner une allégation a posteriori. S'ils veulent qu'un de leurs produits ait une allégation, il faudra qu'ils fassent la demande avant. Autrement dit, ils n'auront pas le droit de donner une allégation à un produit sans qu'elle ait été prouvée scientifiquement et autorisée par, en France, c'est pour l'instant la DGCCRF, mais dans l'avenir, ce sera l'Agence européenne de sécurité alimentaire. Donc, si vous voulez, ça change tout, dans la mesure où maintenant, si on veut avoir une allégation de type allégation santé pour un produit alimentaire, il faudra donner la preuve avant. Alors que jusqu'à présent, on pouvait sortir une allégation, et si effectivement... la DGCCRF jugeait que l'allégation n'était pas bonne, et bien c'est seulement à ce moment-là que le produit était retiré.
Est-ce qu'il y avait certainement déjà des tests réalisés en laboratoire, mais des laboratoires qui appartenaient peut-être au groupe agroalimentaire qui vendait son produit?
C'est-à-dire qu'il y a deux choses. Vous avez des industriels agroalimentaires qui respectaient les protocoles et qui souhaitaient que leurs produits reçoivent une allégation officiellement. Et puis vous avez des laboratoires, souvent dans le cadre des compléments alimentaires et non pas dans les produits porteurs d'allégations santé. Je fais la différence entre l'aliment et le complément alimentaire. Donc c'est surtout dans le domaine des compléments alimentaires où les gens sortent, j'allais dire, souvent un petit peu n'importe quoi.
Alors, dans cette législation, il y a tout un pan qui est réservé aux consommateurs et notamment à la compréhension des allégations. Ça m'a un peu surpris parce que finalement, c'est quand même assez facile de comprendre le slogan « contribue à alimenter vos défenses naturelles » ou « va baisser votre taux de cholestérol ». Ça reste assez compréhensible, non, professeur Turc?
C'est pas si sûr que ça. Je suis pas sûr que si vous interviewez 15 personnes sur comment elles interprètent « contribue à renforcer les défenses naturelles », elles aient toutes la même compréhension. Pour le cholestérol, c'est un petit peu plus simple.
Mais effectivement, alors défense naturelle, c'est peut-être un peu, c'est peut-être aussi volontairement vague, justement, pour pas pouvoir, justement, après entrer dans la ligne de mire de cette législation et pour pouvoir continuer à avoir ce même slogan, peut-être.
Mmh. C'est un problème qui est régulièrement soulevé par les agents d'évaluation, c'est que si on accepte une allégation avec une rédaction qui va pas être forcément précise, sujet, verbe, complément, mais qui va être un concept, eh bien après, d'un consommateur à l'autre et parfois d'un pays à l'autre, la compréhension de l'allégation va pas forcément être la même. Encore une fois, les défenses naturelles n'ont pas forcément la même signification pour un Anglais ou bien un Hollandais ou un Maltais, un Slovène et un Français. Ce qui complique encore l'évaluation par les instances scientifiques.
Alors justement, professeur Turc, vous parlez des différents pays, en l'occurrence les pays de l'Union européenne. Lors de cette séance thématique à l'Académie nationale de pharmacie, vous aviez évoqué un produit, une boisson énergisante qui était autorisée en Belgique, en Suisse, dans pas mal de pays. Enfin, la Suisse n'appartient pas à l'Europe, mais des pays comme ça frontaliers de la France et qu'on ne trouve pas en France. Alors je ne sais pas si j'ai le droit de prononcer le titre de cette boisson énergisante. Et vous aviez indiqué justement que ce n'était pas pour rien que ce n'était pas autorisé en France, parce que ça comportait des risques. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus?
Oui, alors cette boisson, on va la traduire, ça veut dire le taureau rouge, mais on ne va pas donner son vrai nom anglais. Elle est autorisée dans 25 des 27 pays de l'Union européenne, et elle est interdite dans deux pays qui s'accrochent, la France et le Danemark. Stricto sensu, ces deux pays sont en situation illégal par rapport à la réglementation européenne, puisqu'actuellement, les choses ont un peu changé. Précédemment, c'était l'industriel qui devait démontrer, quand on lui demandait, que son produit était sans danger, qu'il y avait une innocuité du produit. Et depuis quelques mois, les règles ont changé, c'est maintenant aux autorités de tutelle, AFSA ou autre agence nationale, de démontrer que le produit est dangereux. Et c'est pas du tout la même chose. Et en l'occurrence, pour ce produit en question, la France et le Danemark ont des interrogations fortes sur l'innocuité, notamment rénale, de ce produit, avec notamment des données chez les animaux de laboratoire qui sont assez inquiétantes, voire effrayantes. Mais stricto sensu, il est extrêmement difficile de démontrer que ces craintes peuvent être suivies de preuves formelles de risque. Et c'est une des problématiques actuelles des instances d'évaluation, c'est de passer justement de cette situation « l'industriel prouve l'innocuité » à la situation « l'agence d'expertise démontre que c'est dangereux ».
Ça garantit en même temps peut-être un résultat plus fiable ?
Alors, il ne faut pas oublier que le point d'ancrage, le point de départ de l'Union européenne, c'est la libre commercialisation des produits. C'est ça le traité de Rome. Et donc, il y a toujours une obsession qu'on peut comprendre, que les États membres n'argumentent pas de pseudo-raisons scientifiques pour finalement bloquer la libre commercialisation des produits. Donc on peut comprendre aussi que les autorités tutelles doivent démontrer le danger d'un produit. Mais c'est vraiment très très difficile parce que on est parfois confronté à des situations où on a du mal à trancher entre interrogations scientifiques sur l'innocuité et preuves réelles du danger.
Alors, je vous propose de marquer une première courte pause, messieurs, et puis alors, on se retrouve tout de suite après pour parler peut-être de nouveau de cette fameuse barre chocolatée qui pourrait favoriser notre circulation sanguine, ainsi que ces produits qui pourraient peut-être lutter contre la maladie d'Alzheimer. À tout de suite.
Les musées ne sont pas à vendre. C'est par une tribune dans le journal Le Monde que Roland Recht est sorti de l'ombre ces derniers mois pour exprimer son désaccord face au projet de Louvre Bis à Abu Dhabi. C'est de cet événement que Roland Recht est venu parler sur Canal Académie, lui qui enseigne au Collège de France et qui siège à l'Académie des inscriptions et belles-lettres, porte une réflexion très précise et tout à fait actuelle sur la place de l'histoire de l'art et de l'historien d'art dans notre société, notre économie et nos priorités politiques. Roland Recht vient de publier « À quoi sert l'histoire de l'art ?» aux éditions textuelles. Cette émission Carrefour des Arts est en libre téléchargement sur Canal Académie.
Suite de notre émission Éclairage, toujours en compagnie du professeur Pierre Bourlioux et Dominique Turc. Dans cette seconde partie, on va revenir un petit peu sur ce qui va arriver certainement sur le marché. Je parlais de cette fameuse barre chocolatée qui va être sur le marché, donc vendue exclusivement en pharmacie, donc ce qui sous-entend qu'il y a quand même un pouvoir thérapeutique. Je ne sais pas si le mot est le bon, vous nous en reparlerez, Pierre Bourlioux. Donc une barre chocolatée qui va favoriser la circulation, améliorer la circulation sanguine. Et puis le deuxième produit qui devrait sortir début 2008, donc c'est quand même dans très peu de temps, donc on utilise le conditionnel, on ne sait jamais ce qui pourrait arriver au dernier moment, par le groupe Numico et qui prévoit donc de sortir un biscuit qui pourrait lutter contre la maladie d'Alzheimer. Alors justement, au regard de cette législation européenne qui vient d'entrer en vigueur, je le rappelle, le 1er juillet 2007 et qui justement vise à limiter ces produits qui vantent les mérites de traiter tel ou telle maladie, ou en tout cas d'améliorer ou d'avoir un certain confort alors que ce n'est pas le cas. Au regard de cette législation, qu'est-ce que vous en pensez en fait? Est-ce que ça peut vraiment voir le jour sur le marché, par exemple en France ou même dans les autres pays européens? Pierre Bourlioux.
Alors, je voudrais revenir sur les deux produits que vous citez. La première, c'est pour la barre chocolatée. Est-ce que c'est un aliment? Est-ce que c'est un complément alimentaire? Ou est-ce que c'est un médicament? Je crois qu'il faut que l'on sache quelle est la position du laboratoire qui fabrique ce produit vis-à-vis de la présentation qu'il fait. Parce qu'il y a deux solutions. Ou bien, il a déposé son dossier avant le 1er juillet. S'il a déposé son dossier avant le 1er juillet, il rentre dans le cadre de l'ancien système, c'est-à-dire qu'il peut avoir, il peut donner une allégation à son produit avec une vérification a posteriori. Je crois qu'il y a pas mal de gens dans des laboratoires qui ont essayé de déposer avant le 1er juillet, un certain nombre de dossiers, de façon à dire, on l'a déposé avant, donc on peut utiliser notre allégation pendant un certain temps, même si on le fait le retirer, on l'aura quand même commercialisé pendant un certain temps de produits. Donc je crois que c'est un premier point. Ce qui est peut-être valable pour la barre chocolatée, peut-être pas pour le biscuit, si le biscuit doit être commercialisé dans plus de temps. Enfin, je ne sais
2008.
Pas. Alors, je sais
mais
pas
ça
du
reste
tout, peut-être.
Vague, bon. Il n'y a pas de date.
Donc, alors, ça, j'allais dire, c'est le premier point. Peut-être que ces deux laboratoires ont décidé de déposer le dossier avant le 1er juillet, de façon à avoir encore l'antériorité et de dire, on met sur le marché une allégation, on verra bien si elle est acceptée ou pas. Le deuxième point, c'est à partir du moment où ces produits ont une allégation réellement thérapeutique, hein, on parle d'amélioration de la circulation sanguine ou d'amélioration de la maladie d'Alzheimer, c'est pas rien. Ce sont des dossiers qui doivent être scientifiquement évalués, avec des résultats qui soient vraiment probants et qui correspondent effectivement à des marqueurs ou à des réalités scientifiques. Donc j'allais dire, moi je n'en ai pas entendu parler de ces produits, je ne sais pas du tout ce qu'ils valent, je ne sais pas du tout s'ils ont fait des épreuves cliniques suffisantes pour prouver que leur produit est actif. En ce qui concerne la circulation sanguine, on sait qu'il y a un certain nombre de produits naturels qui peuvent avoir un effet sur la tension artérielle. Donc ça encore, on peut imaginer que dans ce produit, il y a de tels produits qui peuvent être actifs.
Enrichis avec certains compléments alimentaires.
Pour la maladie d'Alzheimer, alors là, je suis plutôt Je ne dirai rien parce que je ne sais pas du tout ce qu'il peut y avoir comme produit dedans.
Professeur Dominique Turc.
Je pense que le règlement, il a l'intérêt en théorie de pouvoir séparer, entre guillemets, le bon grain de l'ivraie, c'est-à-dire faire en sorte que les consommateurs que nous sommes tous puissent être sûrs qu'une instance solide, européenne, scientifique, a évalué la réalité du message publicitaire qu'elle reçoit en bout de chaîne. S'il y a des produits qui réduisent le risque de maladie d'Alzheimer ou bien améliorent la circulation sanguine, il faut absolument et urgemment que nous en soyons tous informés et que nous puissions en consommer. En l'état actuel des connaissances scientifiques, on a quand même un petit doute. À partir du moment où des produits alimentaires vont avoir comme message publicitaire quelque chose qui est très proche de l'action d'un médicament, il faut que les industriels acceptent l'idée, et c'est l'objectif du règlement, que l'évaluation scientifique est une rigueur qui soit du même ordre que celle qui est actuellement en place pour l'évaluation d'un médicament. Les consommateurs n'accepteraient pas que des médicaments soient commercialisés sans qu'il y ait eu une rigidité totale de la chaîne d'évaluation. Si les médicaments ont les mêmes allégations ou presque que les médicaments, il faut qu'ils soient évalués de la même façon.
Tout en sachant que, suivant ce qu'a dit professeur Bourlioux, c'est que finalement avant 2007, il reste un flou. C'est un peu la vague, c'est un peu vague. Les industriels qui étaient au courant se sont empressés
Je pense réellement qu'il y a beaucoup de laboratoires qui avaient des projets en tête et qui, sachant que ça allait tomber, ont vraisemblablement fait leur dépôt avant le 1er juillet en se disant, et en plus je crois qu'il y a une certaine latence, c'est-à-dire qu'on a encore la possibilité, même au bout de quelques 15 jours ou 3 semaines, encore de déposer des dossiers en disant, il n'était pas tout à fait prêt, mais bon. Donc j'allais dire, le problème de fond finalement, c'est pour ces laboratoires de pouvoir quand même commercialiser avec une allégation sans tomber sur le nouveau règlement qui a pour but effectivement d'être beaucoup plus rigide et de beaucoup plus objectif en ce qui concerne ces allégations.
Alors, on va revenir peut-être un peu plus en détail sur le texte qui est donc sorti, le Journal officiel de l'Union européenne. On retrouve parmi les informations, je le dis comme ça, puis après on reviendra dessus un peu plus en détail, le cas particulier des allergies, par exemple les allergies au gluten, les allergies au lactose, où justement là on va pouvoir préciser, parce que c'est pas forcément précisé effectivement dans les étiquettes, on pourrait penser que dans les ingrédients c'est précisé sans lactose ou avec lactose, ce qui n'est pas forcément le cas. Donc là on va pouvoir en reparler dans ce cadre-là de allégation alimentation santé. On va pouvoir parler également du fait que maintenant sur ces produits, les produits qui vont sortir après cette législation, l'interdiction de mentionner la perte rapide de poids pour éviter peut-être, je ne sais pas, une ruée sur certains produits. Donc on va parler peut-être de ça plus en détail et dans le même sens indiquer tout ce qui est en rapport avec faible en matière grasse, d'être peut-être plus informatif. Mais alors, tout d'abord, sur les allergies, qui est un cas quand même assez important, toutes ces personnes qui sont allergies au lactose, ou qu'on retrouve dans tous les produits, en tout cas dans une grande partie des produits, et également le gluten. Donc avec cette législation, on devrait pouvoir avoir sur les paquets de biscuits, par exemple, cette indication sans gluten ou sans...
Le lactose, ce n'est pas une allergie, c'est une intolérance.
Une intolérance.
Mais le gluten, oui, c'est une allergie. Mais je crois que le gluten...
C'est déjà le cas, Il y a une autre directive qui a été mise en place fin novembre 2005, si mes souvenirs sont bons, qui précise que tous les produits industriels commercialisés au sein de l'Union européenne doivent, sur leur emballage, donner aux consommateurs l'information de la présence ou non d'une douzaine d'allergènes considérés comme les plus fréquents, allant de l'œuf au poisson, en passant par le lait de vache, le soja, etc. Donc ça, on a déjà les textes réglementaires qui permettent d'aider le consommateur dans son choix quand il a la malchance ou quelqu'un de sa famille d'être allergique.
En tout cas, dans le texte, ça laissait sous-entendre qu'en fait, ça pouvait être mis encore plus en avant, le fait qu'il n'y ait pas de gluten ou pas de lactose. Mmh. Comme on pourrait vanter le fait qu'il n'y ait que 0,6% de matière grasse.
Oui. Tout à fait, oui, c'est quelque chose qui va être renforcé. De la même façon que récemment, la Commission européenne a demandé à ce que soit rajouté à cette liste d'ingrédients allergisants le lupin et puis les mollusques. Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte que ça représente un problème au quotidien pour beaucoup d'habitants de l'Union européenne.
Alors, si on revient sur la mention qui est faite justement de ne pas mentionner les pertes rapides de poids, est-ce que ça, vous en savez un peu plus? Est-ce que vous pourriez nous en parler un peu plus, peut-être, Dominique Turc?
Dans le cadre de ce règlement européen, il sera possible de mentionner quelque chose qui tourne autour de la sensation de faim, de l'amaigrissement, etc. Mais encore une fois, et contrairement à la situation actuelle où on voit tout et surtout n'importe quoi, il pourra y avoir des allégations sur le sujet, mais encore une fois, sous réserve qu'il y ait un dossier scientifique, une évaluation et une validation par des comités d'experts de la réalité du paramètre réduction de la faim, amélioration de la satiété ou réduction du poids. Il ne faut pas oublier aussi que d'ores et déjà, et même avant le 1er juillet, il y a toujours un élément qui est d'ailleurs très utile pour les comités d'experts et j'imagine aussi pour la DGCCRF, qui est la notion de tromperie du consommateur. Ça s'est inscrit dans tous les codes de consommation des pays de l'Union européenne. Si une allégation même faite par l'industriel avant le 1er juillet, date de mise en application de ce règlement, est considérée comme trompant le consommateur, elle n'est pas acceptable. La difficulté, c'est d'apprécier ce que c'est que la tromperie du consommateur. Alors, l'Union européenne a essayé de définir ce qu'était un consommateur moyen, définissant l'intelligence moyenne du consommateur moyen. Le texte est très intéressant, mais à la lecture de ce texte, on n'en sait pas forcément.
En tout cas, ça fait sourire, monsieur Bourlioux.
Oui, tout à fait, parce que je crois que l'objectif du règlement européen, c'est de faire en sorte que l'allégation qui sera donnée soit compréhensible. Et on en avait parlé un petit peu tout à l'heure. Il faut que, effectivement, le texte qui sera donné puisse effectivement être bien interprété par le consommateur et qu'il ne soit pas dévié ou que le consommateur n'imagine pas des choses qui n'existent pas, ou tout au moins qu'on l'incite à penser à des choses qui n'existent pas.
Est-ce que vous avez un exemple particulier, un exemple concret par exemple, pour qu'on puisse mettre des images sur vos paroles? Je sais pas, un yaourt, un produit laitier qui vante des mérites qui ne sont pas...
Ah bah écoutez, oui, si vous prenez l'exemple de l'allégation qui a été donnée à la petite bouteille dont on parlait tout à l'heure, qui est « renforce la défense naturelle ». Renforce la défense naturelle, ça comporte au moins trois niveaux. Tout au moins en ce qui concerne ce produit. Ça concerne le niveau cellulaire, le niveau flore et le niveau immunité. Donc pour le consommateur normal, est-ce qu'effectivement quand on lui dit « renforce les défenses naturelles », est-ce qu'il pense que ça va renforcer sa barrière intestinale, renforcer sa flore, renforcer son immunité? Je suis pas sûr. Autrement dit, il y a un texte un petit peu général qui recouvre un certain nombre de choses, un certain nombre de preuves qui ont pu être apportées par le laboratoire, mais pour autant, c'est pas forcément très clair. Donc si vous voulez, je crois qu'il faut essayer dans les allégations de trouver des termes qui puissent effectivement être simples et faciles à comprendre pour le consommateur. C'est pas évident, c'est pas facile. Et surtout pour le laboratoire qui veut prouver ça. Donc si vous voulez, c'est pas évident.
Puis au-delà de l'allégation et de son texte qui est validé scientifiquement, il y a après tout le message publicitaire qui entoure cette allégation et qui va faire en sorte que le consommateur n'aura pas forcément une idée analogue à ce que l'expert scientifique avait initialement. Si on reprend l'exemple de la boisson lactée, et bon, deux petits films illustraient par exemple un enfant qui ramassait un morceau de pain ou un aliment qui était dans un bac à sable d'un jardin public, et le message était: grâce à la boisson lactée et grâce à la défense, à la stimulation des défenses naturelles, il n'y aura pas de souci pour l'enfant. Bon, là, il y a évidemment un décalage entre le message que le scientifique a jugé acceptable et puis ce qui, au final, va arriver dans le cerveau du consommateur. Et dans le même ordre d'idées, on voit dans un autre film publicitaire concernant ce produit, un couple de retraités tout à fait sympathiques qui va aller à quelques milliers de kilomètres sous les tropiques et qui, grâce à cette boisson lactée, pense qu'il n'aura aucun souci de santé. Là encore, il y a un décalage entre la rigueur du message scientifique et puis tout ce qui tourne autour du message d'accompagnement publicitaire, je dirais.
Et justement, vous qui êtes pédiatre, professeur Turc, et tout ce qui concerne le rapport avec les enfants, avec par exemple les laits premier âge, ou les laits enrichis en calcium, où on voit maintenant plein de laits qui fleurissent, et qui pourraient peut-être entrer un peu dans ce domaine-là, hein, d'alicaments, même si, attention, hein, là, on met des guillemets, parce que le terme est impropre. Qu'est-ce que vous en pensez?
Actuellement, la situation n'est pas satisfaisante. Les industriels n'ont pas le droit de faire des allégations sur les laits qu'on appelle les laits premier âge, ceux qui concernent la période 0 à 6 mois, où ces laits se positionnent en alternative à l'allaitement maternel. Donc la communication se fait sur les laits pour les enfants un peu plus âgés, deuxième âge, de 6 mois à 1 an, et puis les laits de croissance. Et là, clairement, actuellement, ça n'est pas satisfaisant. Donc l'arrivée du règlement qui pointe justement cette population particulière des 0 à 3 ans et qui exige des études extrêmement solides pour accepter ou pas des allégations est une très bonne nouvelle.
Mais qu'est-ce qui n'est pas satisfaisant ? Vous voulez dire que les allégations sont fantaisistes, par exemple ? Qu'est-ce qui n'est pas satisfaisant ?
Oui, bon, prenons un exemple. Les enfants se plaignent souvent, surtout le soir en hiver, quand il fait noir et que leurs parents sont épuisés rentrant du travail, de pleurs. Ils pleurent. Ils pleurent, ils ont des gaz, ils ont un petit inconfort digestif. On appelle ça d'un mot incorrect, mais tout le monde comprend ce que ça veut dire, les coliques. Eh bien, vous avez actuellement des laits dont le nom est AC, anti-colique. Donc le nom est en lui-même une allégation. Et il n'y a pas la moindre preuve, le début de preuve, l'epsilon de tentative intellectuelle de démontrer quoi que ce soit, de l'efficacité de ces produits. Une mère de famille qui est dans un rayonnage d'un supermarché et dont l'enfant est en train de pleurer à 7h ou 8h du soir, elle va voir ce produit AC ou va voir un produit qui va s'appeler Transit alors que son enfant est constipé, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va l'acheter et personne ne lui reprocherait, évidemment. Il n'y a pas la moindre preuve de l'efficacité de cette allégation. Donc ça, c'est pas satisfaisant. Ça s'appelle une tromperie du consommateur. On espère ardemment, sans être naïf, que le règlement va mettre un petit peu d'ordre dans tout ça.
Donc de l'ordre, mais avec un temps qui, voilà, avec un temps certainement très long, puisqu'il y a beaucoup de produits sur le marché.
Oui, bien sûr, mais encore que je pense que la DGCCRF, à partir du 1er juillet, va être capable d'intervenir beaucoup plus efficacement que jusqu'à présent, puisque maintenant il y a un texte qui dit il faut que ça soit fait a priori. S'il y a des produits qui ne rentrent pas dans le cadre, il faudra bien sûr qu'il les retire.
Avec, bien sûr, je suppose, maintenant, au fur et à mesure des mois ou des années qui passent, des produits, une liste de produits autorisés, une liste de produits peut-être en attente dans un SAS.
D'allégations autorisées, hein, ou
d'allégations,
refusées.
D'allégations, pardon. D'allégations, oui. Oui. Allégations autorisées, oui. Ou refusées. Voilà, certainement des listes comme ça qui vont être amenées, oui, à bouger régulièrement.
Des allégations qui sont très simples. Hein, contient du calcium, source de fibres, enrichi en. Ça, c'est des allégations qui décrivent le produit ou un ingrédient contenu au sein du produit. Ça, c'est une liste d'allégations qui très rapidement va être mise au clair par la Commission européenne et qui va pas poser de soucis majeurs. Les soucis potentiels, c'est les allégations santé ou sur la réduction d'un risque de maladie. Par exemple, tel produit réduit le risque d'avoir une hypertension artérielle. Ça, on peut imaginer un petit peu plus de discussion sur ce type d'allégations.
Surtout qu'il risque d'y avoir aussi autre chose, c'est que les produits qui vont demander une allégation santé devront respecter ce qu'on appelle les profils nutritionnels. C'est-à-dire que si le produit en question a effectivement une activité sur la santé, mais si par exemple il a trop de gras ou s'il a trop de sel, il ne pourra pas, théoriquement, avoir cette allégation.
Alors, parce profil nutritionnel, peut-être rappelé, c'est le rapport en fait entre les protéines, lipides, glucides, c'est ça ?
C'est ça, c'est un équilibre, j'allais dire, de l'aliment, enfin de l'aliment qu'on prend, de façon à ce qu'il n'y ait pas de surcharge en tel ou tel produit. Produit néfaste pour la santé. Hein. Donc, il va falloir définir ces profils nutritionnels, ils ne le sont pas pour l'instant. Donc, peut-être que Dominique Turc a plus d'informations, mais en tous les cas...
C'est en cours au niveau national, c'est presque terminé, la copie sera envoyée ensuite à la Commission européenne, et c'est un thème qui devrait être réglé courant 2008, si tout va bien. Donc on peut imaginer, pour reprendre votre exemple de la barre chocolatée qui est bonne pour la circulation sanguine, que même si elle est bonne pour la circulation sanguine, ce qui reste à démontrer, si elle est trop grasse, trop sucrée, etc., elle ne pourra pas alléguer parce qu'elle sera considérée comme indirectement potentiellement néfaste pour la santé.
Inversement, un produit, par exemple, qui est très allégé en matière grasse, ne va pas forcément non plus respecter le ratio, le profil nutritionnel, puisqu'il y aura peut-être une carence par rapport au...
J'allais dire, là, c'est un petit peu différent, parce qu'on peut imaginer aussi qu'un produit soit dans de l'eau, simplement. Et l'eau n'apporte rien, si ce n'est effectivement l'eau nécessaire à la vie, mais il n'y a pas d'élément nutritionnel dedans, c'est pas pour autant qu'on va l'interdire. Donc, si vous voulez, je crois que ce soit faible en graisse ou faible en sucre, ou etc., je crois que c'est pas très gênant. Ce qui est gênant, c'est l'excès qui est néfaste.
Eh bien, je vous propose de marquer une seconde courte pause. Et puis, dans la troisième partie, on va regarder un peu ce qui se passe. On a parlé plus ou moins de la Belgique avec la boisson énergisante. On parlera un petit peu des États-Unis et ce qui se fait pour voir un petit peu, s'ouvrir un peu aux autres. Et on parlera donc de cette allégation santé. À tout de suite.
Dans sa médiathèque, Canal Académie vous donne rendez-vous avec Alain Decaux. Comment lui est venu le goût de l'histoire? Quel est son point de vue sur l'objectivité historique? Quels sont ses combats? Quelles sont ses fiertés, ses projets? Alain Decaux se livre en toute vérité. Et quand il raconte, on retrouve le Decaux que nous avons tous aimé écouter à la télévision, à la radio. Alain Decaux est sur Canal Académie.
Suite de notre émission Éclairage en compagnie du professeur Pierre Bourlieu et du professeur Dominique Turc, dans cette dernière partie où nous parlons toujours d'alicaments, nous allons peut-être même parler peut-être de ce terme hein, qui est impropre à la base avant de venir faire un tour du monde des alicaments et des allégations santé plus ou moins farfelues, hein, suivant où on se place, hein, si on est du côté des industriels ou du côté du consommateur. Avant de faire un tour du monde et de partir au Japon, aux États-Unis, voire même en Chine, peut-être reparler du terme alicaments. Qui à chaque fois vous hérisse les poils et vous fait bondir, professeur Bourlieu.
Oui, alors ce terme alicament, comme vous l'avez dit au début, est une compression de aliments, médicaments, et est utilisé pour désigner ces produits alimentaires qui peuvent avoir des propriétés santé. Alors, vous dites que ça nous hérisse le poil, c'est tout à fait vrai. L'Académie de pharmacie est tout à fait opposée à ce type de terme, dans la mesure où ça risque d'induire le consommateur en erreur et où ils vont prendre ces produits comme étant un pseudo-médicament.
Mais c'est facile à comprendre en même temps. Alimentation, médicaments,
oui,
alicaments.
Mais j'allais dire, on va finir par mettre dans la tête du consommateur qu'il y a deux types de médicaments, qu'il y a le médicament comme autrefois, comme Dioscoride, hein, du temps de Dioscoride. Du temps de Dioscoride, il y avait les aliments poisons et les aliments médicaments. Donc, j'ai dit, si on veut revenir à cette époque-là, pourquoi pas? Je sais bien qu'Hippocrate disait « Fais en sorte que ton aliment soit ton médicament et que ton médicament soit ton aliment ». Et j'allais dire, on en est à une époque où je crois qu'on n'a pas le droit de tromper le consommateur et de lui dire qu'en prenant un produit, il va se guérir. C'est faux. C'est donc, j'allais dire, il faut vraiment rester dans le domaine. Et donc, le terme d'aliments santé, ou ce qu'on préfère, les aliments porteurs d'allégations santé, me semble beaucoup mieux approprié.
Et nutraceutique?
Alors, les nutraceutiques, c'est pareil. C'est comme les cosmétiques. Hein. C'est au lieu d'avoir pharmaceutique, on a nutraceutique. C'est tout. Donc, et les cosmétiques. Donc, c'est un petit peu pour distinguer médicaments, cosmétiques et aliments. Donc,
L'Académie de pharmacie donc, recommande d'utiliser quel terme, par exemple, pour ces fameuses boissons lactées qui sont donc reconnues
aliments,
comme ayant...
Aliments porteurs d'allégations santé ou aliments santé, si on veut, pour
aliments santé.
Aliments santé, oui, oui.
Alors, faisons un tour du monde. On commence par les États-Unis ou le Japon, c'est au choix. Par exemple, professeur Turc, vous faisiez référence à l'eau sans cholestérol.
Oui,
aux États-Unis ou au Japon, je ne sais
c'est
pas.
C'est une allégation dont que je me souviens avoir vu au Texas, qui est, je pense, assez bien représentatif des États-Unis. Donc, une eau sans cholestérol, évidemment, il n'y a jamais eu de cholestérol dans l'eau. Donc, c'est typiquement quelque chose qui va accrocher l'attention du consommateur sur les problèmes cardiovasculaires. Et Dieu sait qu'ils
sont très présents aux États-Unis.
Aux États-Unis et qui va donc inciter le consommateur à acheter une eau. Le problème, c'est qu'encore une fois, il n'y a aucune eau qui contient du cholestérol. Donc, c'est typiquement une allégation mensongère et trompeuse, et qui en plus s'attaque un peu à la crainte que chacun d'entre nous a pour sa santé, donc c'est vraiment pas acceptable.
Mais c'est parce qu'il n'y a pas de texte justement qui légifère là-dessus, ou parce que c'est assez flou?
Il y a une grande liberté, la liberté de communiquer, et l'ambiance anglo-saxonne est plutôt une ambiance de liberté individuelle. C'est-à-dire que chacun a le droit de consommer quelque chose, un aliment par exemple, sous réserve que ce ne soit pas mauvais pour sa santé. Mais la liberté va primer sur toutes les autres considérations. Alors qu'en Europe, même s'il y a encore des discordances d'un pays à l'autre, on a plutôt une philosophie de faire en sorte que il faut que l'aliment ait un intérêt pour la santé et la nutrition. Et que la liberté de l'individu, elle existe, certes, mais qu'elle ne doit pas être source de trop d'indulgence en termes de qualité des allégations.
Alors, on trouve également des chewing-gums pour lutter contre le rhume, les boissons, donc vous disiez 0% de cholestérol, mais également les boissons qui permettent de lutter contre les cancers. En Chine, professeur Bourliou, vous évoquiez...
Oui, alors il semble qu'ils sont en train de démarrer un petit peu des choses en Chine. Vous savez qu'en Chine, les médicaments sont... Il y a des médicaments qui viennent de l'Ouest, des médicaments qui fabriquent sur place.
Thérapeutique traditionnelle.
Ils ont une tradition. Ils ont commencé à mettre en place un genre de complément alimentaire à base de plantes. Et ce qui est tout à fait étonnant, c'est que ce ne sont pas les laboratoires producteurs qui vérifient le produit, ce sont des laboratoires d'État. Et ce sont les laboratoires d'État qui pourront dire si le produit peut avoir une allégation. Donc c'est assez étonnant. Ce n'est pas du tout comme ça se passe actuellement dans nos pays où ce sont les laboratoires qui fabriquent le produit, qui font les expertises et qui disent ce produit peut porter telle allégation et je demande cette allégation qui sera vérifiée scientifiquement bien sûr, mais c'est eux qui font le travail. Alors qu'en Chine, il semble que ce soit les laboratoires d'État qui le font.
Donc si c'est les laboratoires d'État en même temps, ça veut dire que c'est la parole officielle.
Oui, mais c'est un petit peu étonnant au point de vue structure. Moi je veux dire, j'étais assez étonné de voir ça. On n'a pas la culture chinoise, donc il faut le voir peut-être avec un œil un petit peu autre que celui qu'on a, l'œil de pays de l'Ouest, et puis essayer de voir comment ça fonctionne. Mais enfin, je vous dis, c'est en train de commencer, donc c'est tout à fait intéressant de voir qu'est-ce que ça deviendra dans le futur.
Alors, l'Agence européenne de sécurité alimentaire va avoir quand même beaucoup de travail, puisqu'on estime qu'actuellement, ça augmente de 20% par an. Je reviens à l'Europe, ça revient à 20% par an d'augmentation. Ça veut bien dire aussi qu'il y a un public qui est en attente. Ça répond aussi à une attente particulière, à une demande particulière. Professeur Turc.
Bah écoutez, oui, l'alimentation pendant des siècles et des millénaires, elle avait pour but de survivre. Donc les choses étaient simples, on mange, on survit, on ne mange pas, on ne survit pas. Après, la deuxième étape, ça a été d'éviter les déficits ou les carences en fer, en iode, etc. Puis on est dans une troisième étape, en tout cas dans les pays riches, qui est essayer de profiter de l'alimentation pour garder notre capital santé. Donc c'est tout à fait logique que le public, les consommateurs soient à l'écoute de cette thématique, d'autant qu'il y a aussi un peu de méfiance parfois pour les médicaments et que les consommateurs ont parfois envie de passer du médicament source, selon eux en tout cas, de quelques soucis parfois, vers quelque chose qu'ils jugent...
Qui paraît plus naturel.
Plus naturel, voilà. Mais le plus naturel est parfois... pas du tout source de tranquillité, mais au contraire source de tromperie d'une part, et pourquoi pas de risque s'il n'y a pas une surveillance attentive.
Professeur Bourliou, vous parlez des compléments alimentaires. Les compléments alimentaires n'entrent pas dans le domaine des alimentaires.
Alors, attendez, je crois que là, il faut en parler, parce que si on veut faire la différence entre aliments et médicaments, je crois qu'il faut repartir du départ. Un aliment, c'est quoi ? Un aliment, c'est quelque chose que l'on mange tous les jours, que l'on prend parce que ça apporte un certain nombre de nutriments qui sont énergétiques, qui vont nous permettre de vivre, et qui, effectivement, sont indispensables à la vie. Donc, un aliment, on le prend tous les jours. Comme disait M. Trémolière, il faut que ce soit un aliment. C'est une substance comestible, appétante, nutritive, et il y en avait un quatrième. Donc, si vous voulez, voilà la définition d'un aliment. Si vous parlez maintenant du complément alimentaire, le complément alimentaire, il y a eu deux définitions. La première définition, celle qui était en activité en France, c'était des produits qui devaient subvenir à des manques d'ingestion de produits de type minéraux et vitamines. Donc, si vous voulez, c'était clairement une alimentation de substitution en cas de manque de prise par l'individu. Pas forcément de carence, mais on ne respectait pas, j'allais dire, les apports journaliers. C'était un petit peu ça. Donc, c'était ciblé sur un certain nombre de points. C'était les vitamines et les minéraux. Et puis, il y a eu une autre définition qui est apparue avec un autre règlement européen et qui fait rentrer dedans n'importe quelle substance, à condition qu'effectivement, on prouve que c'est nécessaire. Et là, ces produits doivent avoir une activité nutritionnelle ou physiologique. Et malgré ça, on voit des compléments alimentaires qui sortent avec une activité thérapeutique. Donc, j'allais dire, on ne peut pas être d'accord avec ça. Donc, si vous voulez, quand on regarde la définition du médicament qui dit que c'est tout produit qui permet de prévenir ou de guérir des maladies humaines, hein, c'est simplifié, c'est une définition simplifiée, on se dit que tout ce qui concerne l'alimentation normale, c'est un cas à part. Ce qui concerne les aliments santé, avec la réglementation qui sort là au 1er juillet, c'est effectivement une réglementation qui va permettre d'harmoniser tout ça au niveau européen. Quand on parle des compléments alimentaires, il va falloir qu'on fasse quelque chose de vraiment efficace pour éviter qu'il y ait une confusion entre ces produits et les médicaments.
Et avec ça, donc, pour le coup, je renvoie à l'émission que nous avons faite avec Robert Anton, qui avait fait aussi une communication à l'Académie nationale de pharmacie, sur les compléments alimentaires, mais versus plantes et non pas les, ce que vous disiez, les vitamines, les minéraux et oligo-éléments. Cette législation, elle est là quand même pour nous simplifier la vie, non? Parce qu'on en parle et c'est vrai qu'il y a quand même des aspects bien compliqués, mais elle est là pour nous simplifier la vie, pour essayer d'y voir plus clair dans les rayons de notre supermarché.
Ah ben oui, je crois qu'à terme, elle est faite surtout pour faire en sorte que dans les supermarchés de tous les pays européens, on ait les mêmes produits et que l'on ait les mêmes types d'allégations et que ne soit pas surpris qu'un produit existe, j'allais dire en Allemagne ou au Danemark, et ne puisse pas exister en France avec la même allégation. Donc l'objectif, c'est ça. Et ce que disait le professeur Turc tout à l'heure, c'est effectivement, ça permet la circulation des produits à l'intérieur de l'Europe, sans pour autant qu'il y ait de différence et qu'un produit dise « moi, je ne veux pas que ce produit soit en France parce qu'il a une allégation qui ne me plaît pas », alors qu'elle aurait été autorisée au niveau européen.
Et alors, combien d'années il aura fallu pour pouvoir mettre ces textes enfin sur place entre le moment où l'idée a été formulée
et
le moment où tout a été
signé ? Quand on interroge Mme Baldé, elle vous dit qu'il a fallu 10 ans de négociations au niveau européen pour que tout le monde se mette d'accord entre d'abord les pays membres, entre les gens de l'alimentation, les gens du réglementaire, les gens de l'industrie pharmaceutique. Et ils y ont participé, les pharmaciens, à ce règlement. Donc, j'allais dire, tout le monde a été concerné. Et je lui dis, il a fallu 10 ans.
Avec une pression quelconque des industries agroalimentaires ?
Non, je ne pense pas. Je pense que tout le monde a mis un peu de l'eau dans son vin ou du lait dans son lait fermenté. Mais je crois que tout le monde a bien travaillé. Et la question qui reste posée, qui n'est pas encore réglée, c'est celle des preuves scientifiques. Car dans le règlement européen, il n'y a pas d'obligation en disant vous devez faire telle chose ou telle chose.
Ça doit quand même passer dans un laboratoire.
Tout à fait. Mais j'allais dire, il n'y a pas d'exigence nominative. On ne vous dit pas que les essais cliniques doivent être randomisés, double aveugle, avec contrôle, etc. Donc, si vous voulez, pour l'instant, ça n'existe pas. Donc, il va falloir que soient mis en place des textes qui permettent de régir ce type de preuves.
Donc nous sommes encore à une première étape.
Non, il y a déjà un gros travail qui a été fait, puisque les gens en Europe, les industriels en Europe, ont commencé à travailler dessus et ont mis au point ce qu'ils appellent un pass claim, qui est des recommandations pour les laboratoires qui veulent faire des allégations en ce qui concerne toutes les preuves scientifiques qu'ils doivent apporter. Voilà. Et si on se base sur ce pass claim, on pense que réellement, les laboratoires devront apporter des preuves scientifiques extrêmement précises, avec des essais vraiment très très important, des essais cliniques, apportant toutes les preuves scientifiques nécessaires pour la validation des allégations en santé.
Ce qui ne va pas, pour eux, leur faciliter la tâche.
Non, tout à fait. Mais il faut savoir que les compléments alimentaires sont aussi inclus dedans. Donc, en dehors des compléments alimentaires qui demanderont une allégation en santé avec un produit qui est connu pour avoir des propriétés scientifiques, et là, ils pourront apporter simplement des preuves bibliographiques, pour les autres, ce seront des preuves scientifiques importantes.
Professeur Turc, pour terminer, on a parlé bien sûr des aliments que l'on trouvait en supermarché. Est-ce que c'est valable aussi pour les aliments qu'on peut trouver dans les hôpitaux, puisque vous travaillez en pédiatrie ?
Oui, si on met dans les aliments qu'on trouve dans les hôpitaux et les services de pédiatrie les laits pour nourrissons, puisqu'ils sont considérés par ce règlement. Non, si c'est pour l'alimentation courante qu'on distribue aux enfants ou aux adultes qui n'est pas concerné par ce type de règlement. Je pense que ce règlement, c'est un progrès important par rapport à une situation actuelle qui est pas satisfaisante. Maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'on transforme l'essai et que les 2 ou 3 ans de période un peu intermédiaire qui s'annonce devant nous soient vraiment utilisés pour une mise en place cohérente où tout le monde y retrouve son compte, consommateurs, l'autorité de tutelle, les scientifiques et aussi les industriels, parce qu'il est important que la recherche se poursuive, il est important qu'il y ait des produits innovants qui arrivent sur le marché. Encore une fois, si des produits améliorent la circulation sanguine et réduisent l'Alzheimer, en tant que consommateur, j'ai envie de les consommer. Mais j'ai aussi envie qu'il y ait une preuve formelle de leur efficacité. Donc c'est une bonne nouvelle, ce règlement. Mais il y a 2 ou 3 années là qui sont importantes et il ne faudra pas rater la mise en place.
Eh bien, je vous remercie d'être venu nous expliquer tout cela. Ce n'est pas forcément évident de se plonger dans ces règlements européens. Je rappelle à nos auditeurs, professeur Turc, que vous êtes professeur de pédiatrie au CHU de Lille, président du comité d'experts d'Agence française de sécurité sanitaire des aliments pour la nutrition humaine. Et puis, Pierre Bourlioux, vous êtes professeur de microbiologie président du conseil scientifique de l'Institut Danone, et non pas du groupe agroalimentaire Danone, membre de l'Académie nationale de pharmacie. Merci à vous deux et à bientôt pour un nouvel éclairage.